là-bas au fond tu t'isoles. Il y a ces deux plis que l'on voit entre tes yeux. Ces mêmes traits d'ennui, beaucoup trop sérieux. Jamais su danser, t'as jamais su glisser. T'as jamais pu, jamais su danser, jamais tu laisses aller. La tête renversée.
Chers compatriotes, c'était Ours, jamais su danser.
C'est pas vrai, je rêve.
Plus tard, c'est bon.
Allez vous faire foutre avec votre logique.
Point d'exclamation.
Meilleure des annonces du monde, meilleure des annonces du monde. Il est 18h06, vous êtes dans Spam sur Pulsar avec Romain, Bastien et Jean Lassalle.
Bonsoir.
Ensemble pour vous informer sur votre quotidien numérique. On s'intéresse tous les jours un peu plus à vos lendemains. Voici le pare-feu de l'actu. Alors, on va rester toujours un petit peu la tête en l'air avec ce qui se passe dans l'espace, Romain.
Oui, voici une nouvelle à faire pâlir Jacques Cheminade, chantre de la conquête spatiale, un des postulants à la présidence de notre République.
On ne peut pas dire qu'on ne parle pas des petits candidats. Hein.
Voilà, non. Figurez-vous qu'un vaisseau spatial va bientôt frôler un astre que nous voyons tous les jours et qui nous est pourtant si inconnu, c'est le Soleil. Ça semble mission impossible, hein. Tous les vaisseaux actuels fondraient à l'approche de la brûlante étoile rouge, mais impossible n'est pas américain. Et la NASA a annoncé récemment le lancement à l'été 2018 d'une sonde spatiale Solar Probe Plus, ou SPP, dont la mission sera d'étudier la couronne du Soleil, afin d'en savoir plus sur les vents solaires qui impacteraient notamment nos lignes à haute tension, au point de provoquer d'énormes pannes, comme ça avait été le cas au Canada en 89. 6 millions de personnes s'étaient retrouvées sans électricité à cause d'un orage magnétique. Alors quand je dis frôler le soleil, c'est évidemment à l'échelle spatiale. La sonde SPP approchera à 5,9 millions de kilomètres de la surface du soleil. Bon,
Ouais.
Mais elle battra quand même largement le précédent record de 76, hein, qui était détenu par la sonde Helios 2. Elle s'était alors approchée du Soleil à 43 millions de kilomètres.
Petite dédicace à mon chat qui s'appelle Helios, s'il écoute.
Je t'embrasse. Bonjour Helios. Alors, Solar Probe Plus devra notamment nous permettre d'étudier les particules énergétiques émises par les vents solaires. Alors, ce sont les particules qui, en arrivant dans l'atmosphère terrestre, provoquent les aurores boréales. En gros, sans rentrer dans le détail, la sonde nous permettra de savoir pourquoi et comment ces particules se forment et sont éjectées hors de la couronne solaire pour venir jusqu'à nous. Alors, contacté par le Pure Player Motherboard, le scientifique Nicolas Fox a indiqué que cette mission, c'était un objectif majeur depuis des décennies. C'est la dernière grande région du système solaire qui n'a jamais connu la visite d'un engin spatial, dit-il. Et en plus de battre le record d'approche du Soleil, donc la sonde devrait être le vaisseau le plus rapide jamais conçu, puisqu'elle atteindra la vitesse de 725 000 km par heure, explosant le record de l'orbiteur Juno, qui avait fait 265 000 km par heure. Donc Motherboard a indiqué que c'était l'équivalent d'un trajet Paris-Caen en une seconde, ou un tout petit peu plus pour un Paris-Vesoul. La trajectoire de la sonde sera contrôlée grâce à la planète Vénus, qu'elle survolera 7 fois en 7 ans, ce qui permettra de se rapprocher progressivement du Soleil tout en contrôlant la vitesse de SPP. Donc l'un des plus gros défis, c'est évidemment la température. Hormis les températures glaciales de Vénus, en s'approchant de la couronne solaire, SPP devra supporter des températures de plus de 1100 degrés, ce qui a nécessité la conception d'un bouclier thermique avec de la mousse carbone coincée entre deux couches de protection. Cette mousse composée à 97% d'air, elle a donc l'avantage de ne pas trop alourdir la sonde et de ne pas nuire à ses performances. Ce bouclier devrait permettre à la face arrière de l'appareil de ne pas trop subir les chaleurs du soleil et ainsi de protéger les instruments scientifiques. Bref, cette mission représente un défi de taille et en cas de réussite, elle mettrait fin à de nombreuses années d'attente tout en nous permettant d'en savoir un peu plus sur le soleil et ses impacts sur la Terre. Rendez-vous donc à l'été 2018 pour le lancement.
En plus, il fera beau.
En plus, il fera beau.
Je vais te demander de faire toutes les annonces comme ça. Allez, moi, je voulais vous évoquer, la semaine dernière, je parlais du film Live Ghost in the Shell. Hein. Pour rappel, j'avais dit de ne pas aller le voir. Et d'ailleurs, depuis, Scarlett me fait la gueule. Ce sujet me permet de faire le lien avec ma brève d'aujourd'hui, qui est le cerveau artificiel, soit la possibilité de faire un pas vers des robots ayant une capacité de réflexion et d'apprentissage similaire à la nôtre. Ça s'appelle du biomimétisme et c'est le secteur le plus porteur actuellement en robotique. Et pour une fois, cocorico, l'innovation vient de France, puisque des chercheurs du CNRS et de l'entreprise Thales, pilotés par Vincent Garcia, sont parvenus à créer un synapse artificiel capable d'apprentissage sur une puce électronique. Pour rappel, un synapse, hein, c'est un élément du cerveau humain qui assure la connexion entre les neurones et par lequel transite l'information. Plus un synapse est stimulé, mieux l'information circule, le neurone est mieux sollicité et on apprend mieux. Et on regarde moins Hanouna. Les chercheurs ont donc reproduit ce phénomène avec une expérience baptisée MemoryStore, qui est constitué d'un nanocomposant électronique formé d'une fine couche ferroélectrique prise en sandwich entre deux électrodes pouvant ajuster sa résistance sous l'action d'impulsions électriques similaires à celles des neurones. Si la résistance est faible, la liaison synaptique est forte. Si la résistance est forte, la liaison est faible. C'est cette capacité de la synapse à adapter sa résistance qui permet l'apprentissage. En fait, ça a l'air de rien, mais c'est un très grand pas vers la constitution de cerveaux artificiels avec des réseaux de synapses et des neurones, c'est-à-dire avec une capacité réelle d'apprendre des notions complexes. Alors, c'est un vieux rêve, hein, du domaine de la robotique, et d'ailleurs, on produit déjà des robots étant capables d'apprendre des actions simples, comme apprendre à marcher, et tout ça de même, mais ça reste encore assez limité et tous ces apprentissages sont notamment prévisibles. Avec un outil tel que le propose ce synapse du CNRS, on pourrait constituer des serveurs autonomes ou des robots imprévisibles. Et à partir de là, vous la voyez venir, la petite grande guerre contre les robots ?
Virgule.
Ça sent rudement bon.
Oui, c'est vrai.
Hussard, c'est bon.
Vous en voulez ? Oh, merci.
Point d'exclamation.
En fait, je conditionne toutes mes brèves pour parler des robots parce que je sais que Bastien adore Terminator.
Exactement.
Et qu'au bout d'un moment, il va flipper, pour de vrai.
Mais je flippe déjà.
C'est que tu vas protéger.
Benoît Hamon flippe aussi, d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Taxons-les d'abord. Allez, une petite transition musicale avant de continuer avec ce morceau de Fountain of Wayne à chantonner en sortant, épuisé du boulot.
Working all day for a mean little man with a clip on tie and a rub on tan. He's got me running around the office like a dog around a track. But when I get back home, you're always there to rub my back. Hey, Julie, look what they're doing to me, trying to trip me up, trying to wear me down.
Julie, I swear it's so hard to bear it, and I'd never make it through without you around. No, I'd never make it through without you around. Hours on the phone making pointless calls. I got a desk full of paper that means nothing at all. Sometimes I catch myself staring into space, counting down the hours till I get to see your face. Hey, Julie, look what they're doing to me, trying to trip me up, trying to wear me down. Julie, I swear it's so hard to bear it, and I'd never make it through without you around. No, I'd never make it through without you around. How did it come to be that you and I must be far away from each other every day? Why must I spend my time filling up my mind with facts and figures that never add up anyway? They never add up anyway. Stained tie. He's got me running around the office like a turtle on a wheel. He can tell me what to do, but he can't tell me what to feel. Hey, Julie, look what they're doing to me, trying to trip me up, trying to wear me down. Julie, I swear it's so hard to bear it, and I'd never make it through without you around. No, I'd never make it through without you around. No, I'd never make it through without you around.
C'était Fountain of Wayne's Hey Julie.
Une puissance de professionnel, je dirais.
Ça, c'est bizarre.
C'est toi en plus.
De retour sur le plateau de Spam, on va. J'ai tenté une transition
football.
Une transition footballistique, je me sentais d'un coup.
C'est bientôt le début de la seconde mi-temps.
Bastien, tu vas nous parler un petit peu d'hardware,
De la fin de l'hardware.
La fin de l'hardware, pardon. Excuse-moi.
Mais je vous parlais il y a quelques émissions de Shadow, je sais plus si c'était la semaine d'avant ou d'après.
C'était il y a deux semaines.
Ouais, il y a deux semaines, l'ordinateur dématérialisé qui vous permettait d'avoir un PC de gamer puissant sous la forme d'un petit boîtier. Donc c'est pas encore la dématérialisation finale, mais on y arrive. Eh bien, on dirait bien que la virtualisation des services et des objets tech est la nouvelle lubie des constructeurs et des opérateurs. En effet, Bouygues Télécom est en train d'expérimenter une box TV dématérialisée disponible en ligne sur TV connectée ou sur une box Media Center. Donc imaginez prendre un abonnement triple play, donc c'est internet, téléphone et TV, chez un opérateur qui ne vous livre plus que la box internet. La partie box TV serait quant à elle fournie sous forme de logiciel uniquement, intégrée directement donc dans un téléviseur connecté ou sur un boîtier de type Apple TV ou Android TV. Donc ce serait une grosse économie pour les opérateurs qui n'auraient plus à fabriquer de box TV et un moyen de vous proposer une expérience un peu plus personnalisée.
Et aussi le moyen de ne pas avoir un meuble dégueulasse avec une espèce de
boîte
moche.
Exactement, prendre la poussière et ça
rien. L'obligation d'acheter une Android TV.
Changer de télé.
Ouais.
Pour l'instant, à l'étape de projet chez Bouygues, Canal+, de son côté, et sa nouvelle direction a déjà misé sur la dématérialisation, puisque les nouvelles offres d'abonnement sont maintenant disponibles directement sur TV Connecté et sur Box Media Center. Et à terme, la chaîne payante souhaite ne plus envoyer de décodeurs à ses abonnés. Donc c'est quand même un gros changement chez Canal+.
Alors en même temps, c'est que ça commence à coûter cher, vu qu'ils perdent beaucoup de pognon,
ouais,
vu qu'ils ont plus
de moins en moins d'abonnés.
Ils envoient des déconneurs.
On peut aussi citer l'application Molotov qui vous fournit la TNT et d'autres chaînes payantes via une app, mais aussi tous les services de SVOD comme OCS ou Netflix qui ont déjà prouvé qu'ils n'avaient pas besoin de matériel physique pour réussir. Cette orientation de Bouygues Telecom montre aussi que les opérateurs commencent à avoir du mal à innover en matière de hardware et ne savent plus trop quoi proposer à leurs clients. On attendra quand même la nouvelle Freebox V7 qui devra arriver cette année pour porter un jugement final sur l'avenir des box TV.
En même temps, quand on y pense, c'est étonnant même que ce ne soit pas arrivé plus tôt, ça me semble tellement logique
ouais,
de
mais là,
faire
y a
disparaître
un
les boîtes.
Gros changement.
Les firmware de ces box sont tellement datés, enfin, là, je suis Orange maintenant depuis pas longtemps, tu appuies sur un bouton de la télécommande, l'action se fait une seconde après. Quoi.
Et donc, c'est des firmware maison qui développent eux-mêmes, alors que la Freebox, je crois que c'est la Crystal, et sous Android TV.
Ouais, c'est
donc,
ça.
Maintenant, on a un objet qui fait tout.
Voilà. Bon, vu que la plupart des développeurs d'Orange se
pendent. La 4K, je crois, la Freebox.
Ouais,
Freebox 4K. Player 4K, je crois.
Et même pour les jeux, je sais que PlayStation a lancé un service aussi de jeux en démat. Donc c'est pas mal.
D'accord.
Voilà.
Merci Bastien.
De rien.
Et sans transition, on va continuer avec un duel de
Romain. Romain but du côté de Caen.
Vas-y, continue Romain. Qu'est-ce
allez,
que
si je vous dis combat de robots géants.
Ouais.
Vous avez peut-être pensé à des films comme Transformers ou Pacific Rim.
Il y a Power Rangers qui est sorti en cinéma.
Ah oui, aussi.
Go Power Rangers.
Et peut-être même au rayon des jeux vidéo, vous penserez à Metal Gear. Donc rien de réel en tout cas, et pourtant vous allez peut-être bientôt pouvoir lâcher vos manettes et autres DVD, car un vrai combat de robots géants va bientôt avoir lieu entre les États-Unis et le Japon. Alors l'histoire date déjà de 2015, quand les cofondateurs de la start-up américaine Megabot Inc. ont défié une autre start-up japonaise, Suidobashi Heavy Industry. Donc seulement la start-up Nippon dispose alors déjà d'un robot développé depuis 2012, alors que les Américains ont dû faire appel au crowdfunding via Kickstarter pour financer la construction de leur propre machine. Résultat, le MK3 est né, il pèse 12 tonnes pour 4,8 mètres de hauteur. Le robot japonais qui s'appelle Kuratas est lui inspiré du manga Armored Trooper Votoms et il mesure lui 4 mètres de haut pour un poids de 4,4 tonnes. Chose improbable, Kuratas est disponible à la vente sur la version japonaise d'Amazon pour la modique somme de 120 millions de yens, soit un peu plus d'un million d'euros. Alors le robot est équipé d'un bras, sur un bras d'un bébé Gatling, c'est une mitrailleuse qui verrouille sa cible et se déclenche grâce au sourire du pilote, donc c'est un peu un truc de psychopathe. Donc cette option n'est bien évidemment pas fournie sur la version commercialisée. Quant au robot américain, le MK3, les internautes ont pu suivre les étapes de sa construction depuis la chaîne YouTube de Megabot, avec notamment le test d'armes à la fois loufoque et impressionnante. Et c'est sur cette même chaîne qu'une vidéo complètement déjantée a été publiée par les cofondateurs de la start-up. Une vidéo que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur la page Facebook Spam Pulsar, et dans laquelle ils annoncent que le combat se tiendra en août 2017 dans un lieu encore tenu secret. Donc moi, j'ai hâte de voir à quoi ce combat va ressembler.
Alors, ça va se passer en Syrie. Parce qu'ils ont beaucoup d'humour, les mecs. On va le déplacer. Non, c'est cool pour acheter un robot.
Il y avait un film, c'est Real Steel, avec Hugh Jackman. Oui. C'est comme ça, mais c'est très mauvais, mais c'est la même histoire.
Peut-être pour ça que je l'ai pas vu.
Là, c'est la réalité.
Je vais pas dire qu'il est très mauvais. On va pas faire dans la boîte sans transformer ça en émission de cinéma. Mais oui, non, c'est cool. J'aimerais bien me ramener au boulot avec un robot. Tout de suite, le patron, il te tient un petit peu moins.
Sur les parkings, t'auras que des mécas qui sont garés.
Surtout, je me demande à quoi ça va vraiment ressembler, quoi. S'ils vont vraiment se détruire à la scie ou.
Ça va durer deux secondes.
Les pilotes qui sont à l'intérieur, s'ils vont vraiment mourir. Je sais pas, j'attends de voir, je veux voir.
Là, ça va être fun, je sens encore cette histoire. Ben, on suivra ça de près et on vous tiendra au courant. Merci, Romain. Là-dessus.
Oh, yeah.
On va parler. On va parler de deux autres gros problèmes majeurs de ce monde, c'est les déchets nucléaires et la durée de vie limitée de nos batteries de smartphones.
Ah oui.
Ouais, voilà, les deux gros problèmes du monde, c'est ça.
Oui, c'est vrai.
Voilà, ben oui, c'est quand même pénible de devoir recharger tous les jours, voire plusieurs fois par jour, nos portables. Et il y a bien un lien entre les deux, et ce lien s'appelle Tom Scott, un chercheur de l'université de Bristol, qui a présenté en 2016 un concept théorique de batterie fonctionnant avec des déchets nucléaires. Alors oui, ça date de l'an dernier, mais les recherches pour passer de la théorie à la pratique sont toujours en cours. Et avec le décret de la fermeture de la centrale de Fessenheim ce week-end, je me suis dit qu'il était important de revenir dessus, car tous les déchets nucléaires que nous produisons, nous ne savons pas les recycler. Alors la solution serait peut-être de les transformer, et c'est donc dans cette réflexion qu'intervient Tom Scott et son équipe de chercheurs, qui proposent de s'emparer de morceaux de graphite de centrales démantelées sur lesquels se forme un cœur de carbone 14 radioactif. Il peut piocher autant qu'il veut, puisque la Grande-Bretagne en produit 95 000 tonnes par an. Donc à partir de ce morceau de graphite, il parviendrait à créer un diamant radioactif qui produit sa propre énergie, encapsulé dans un autre diamant neutre, mais qui doit laisser sortir des électrons. Ça s'appelle un générateur bêta-voltaïque, c'est-à-dire que ça produit sa propre électricité, son propre flux d'électrons, qui pourrait être fonctionnel pendant plus de 5000 ans. Bon, alors l'instant déception, c'est qu'on n'a aucune idée de la puissance dégagée par cette potentielle batterie, puisque je rappelle qu'elle est que théorique, mais il est sûr qu'elle n'est pas suffisante pour alimenter un Nokia 3310. Par contre, elle pourrait en théorie alimenter des objets qui n'ont pas besoin de beaucoup d'énergie, comme des pacemakers, des éléments de satellite, des montres. Et puis, c'est le début de cette recherche, mais c'est un potentiel assez formidable pour trouver une utilité à tous les déchets nucléaires que produisent nos centrales quotidiennement et dont on ne sait actuellement rien faire d'autre que de les enterrer sous le béton. Et c'est un vrai sujet, en fait, parce que si c'est un débat un peu évoqué actuellement, sortir du nucléaire, c'est loin d'être une simple question de volonté politique. En plus de la question technique de la radioactivité, il y a également les enjeux économiques. Une petite info que vous ne risquez pas d'entendre ailleurs, c'est que cette année, Areva va extraire son premier kilo d'uranium issu du plus grand gisement d'uranium du monde au fin fond du Canada. Et comme ils ont mis 20 ans à construire les infrastructures nécessaires à cette extraction, ils ne vont pas se plier aux desiderata d'un mouvement politique. Donc pour rappel, la France produit en moyenne chaque année 50 000 m3 de déchets nucléaires qui restent actifs pendant des siècles et des siècles. Et tout, transformer tout cela en petites piles pour nos smartphones, au final, ce serait peut-être un moyen de s'en servir à quelque chose.
Ouais.
Intéressant, non ?
Nous représentons une goutte de paresse dans un océan de labeur.
Ah, voilà.
Tu sais, il est étoile en plus.
Alors, on va passer à une petite musique un peu moins sérieuse avec le duo le plus déjanté du rock qui va vous faire bouger avec un bon vieux morceau. C'est Tenacious D avec Rise of the Phoenix.
The pick of destiny was released, it was a bomb. And all the critics said that the D was done. The sun had set and the chapter had closed. But one thing no one thought about was the D would rise again, just like the phoenix will rise again. Cause the fiery heart of a champion cannot be quenched by a failure or an embarrassment, no way, no. And the critics all agreed it was a stinky pile of cheese. But that does not mean that our hearts are not strong, just like the phoenix will rise again. Tenacious D has died, what will we do? And what will we do about all the fans who have the D tattoo? They'll have them removed. They'll have to laser off the D tattoos. Have to laser off the D tattoo.
Wait a minute, Cage.
What's that you say?
You know it's not too late.
Yes, it is too late.
We only need one hit.
Just imagine it.
We could be legit. Too legit to quit.
One hit. One hit. One hit. Yeah, we're hoping this is it. One hit. Talking hit.
What happened?
Ah là là, Romain.
C'était le morceau qui était...
It's a trap. Romain.
C'était Tenacious D avec Rise of the Phoenix.
Pulsar, je t'aime.
Si tu me parles en serrant tes cuisses sur mes oreilles, j'entends rien.
Pulsar.
Et il faut voir le clip pour comprendre cette pause à la fin du morceau.
Tout à fait. Je
te le conseille. Allez, on passe à ta chronique web, Romain, et on va commencer ce tour du web par une petite page présidentielle, ça faisait longtemps.
Et on reparle de Philippe Poutou.
Poutou.
On s'est pas revu depuis le grand débat à 11, c'était sur CNews et BFM TV mardi dernier. Un débat au cours duquel le candidat du NPA s'est fait remarquer, hein, au-delà de sa tenue vestimentaire. Ce qu'on retiendra, c'est sa tirade contre François Fillon et Marine Le Pen. Mais dans ce débat, les internautes ont aussi remarqué la tendance de Philippe Poutou à se retourner vers ses soutiens derrière lui. Et beaucoup se sont demandé sur Twitter, image à l'appui, ce qu'il pouvait bien se raconter. Donc, il y a combien Monaco-Lille pour Philou Sport ou Le Critiqueur ? Il est à quelle heure le dernier métro ou pêle-mêle ? C'est maintenant que je dis à Fillon, rends l'argent. Est-ce que je parle des pizzas à l'ananas ou pas du coup ? Ou encore, c'est la blonde, la fille de Voldemort ? En une soirée, Philippe Poutou est donc devenu un mème. Et peu après dans la semaine, un tweetos a même croisé dans la rue une parodie d'affiche de campagne avec l'image de Poutou, toujours retournée en guise de slogan. C'est quoi le slogan déjà ? Et pendant ce débat, un autre candidat s'est fait remarquer pour connaître à la lettre tous les articles des différents traités européens, quitte à passer pour un psychopathe, c'est François Asselineau. Et Combini, avec sa chaîne Speech, s'en est moqué en vidéo, ça m'a bien fait rire.
L'article 42, l'article 13... L'article 68, l'article 14 et 15. En un mot, ça sera l'article 63, l'article 106, l'article 4, l'article 121, l'article 50.
Voilà.
Vous avez la carte
d'identité ? C'est très bon. En même temps, il faut aussi signaler qu'il est passé à Jean-Jacques Bourdin. Jean-Jacques Bourdin l'a interrogé
ouais,
sur
ce matin.
Tout,
ouais.
Et il s'est fait coincer.
Ouais, ouais. Il avait mal révisé. Il a bachoté, je pense,
ouais,
pour
je
le.
Pense, grave.
Le
débat. Ouais. Et pendant ce temps, François Fillon, lui, se compare à Vercingétorix. Et forcément, Twitter s'en mêle là.
Oui, c'était vendredi dernier lors d'un meeting dans le Puy-de-Dôme. François Fillon a rappelé l'issue de la bataille de Gergovie. Je ferai pas les limitations. Hein. Là-bas, il y a quelques siècles, un rebelle gaulois, Vercingétorix, infligea une défaite magistrale à Jules César, qui était pourtant le favori des sondages. Mais décidément, François Fillon aime bien se définir comme étant rebelle, mais c'est surtout la comparaison à Vercingétorix qui a titillé les tweetos. Faudra quand même que quelqu'un dise à Fillon que Vercingétorix a perdu au deuxième tour, rappelle Antoine Léaumont en référence à la bataille d'Alésia. Il n'a pas fini par baisser les armes et se rendre. Vercingétorix, s'est aussi demandé Clément Guzzo. Et d'autres en ont profité pour lui rappeler ses affaires. Romain Jam a tweeté une gravure du Gaulois en armure en commentant « Vercingétorix et son costume à 13 000 sesterces ». Et François Fillon, qui vit décidément une campagne compliquée, en même temps on ne va pas le plaindre, il s'est fait enfariner jeudi dernier avant un meeting à Strasbourg. Évidemment les tweetos se sont emparés de l'affaire et certains se sont réunis sous le hashtag « Je suis farine » pour s'amuser du fait que François Fillon soit enfin blanchi. Et puis la page Wikipédia du candidat est décidément prisée de ses opposants après qu'elle ait été modifiée fin mars pour le définir comme le plus gros escroc français. La partie phonétique qu'on trouve à côté du nom pour savoir comment on le prononce a été modifiée par Rend l'argent. Donc décidément, ça le poursuit. On aurait aussi pu parler de la réaction des internautes suite à sa déclaration sur sa femme Pénélope qui met chaque matin, la pauvre, hein, le réveil à 6h30 par crainte d'une perquisition. Bon, on était déjà assez complet sur François Fillon.
Je pense que oui, on a quand même déjà beaucoup dit. Force, on va le martyriser. Pendant ce temps, Jean-Luc Mélenchon fait parler de lui. Là, t'es vraiment dans le temps CSA, hein, c'est-à-dire qu'on parle de tout le monde. Hein. On a cité Cheminade, Poutou, Asselineau, Lassalle.
Exactement. Fillon. La semaine prochaine, je parlerai des autres, mais là, je vais parler Mélenchon avec un jeu vidéo. Si vous avez toujours rêvé de casser la gueule aux fraudeurs, hein, soupçonnés fraudeurs et autres amis du patronat, que sont Jérôme Cahuzac, Patrick Balkany, Emmanuel Macron ou François Fillon, tiens, encore lui, vous pouvez maintenant vous défouler grâce au jeu vidéo Fiscal Combat. Un jeu vidéo en référence au célèbre jeu de baston Mortal Kombat. Alors quel rapport avec Jean-Luc Mélenchon ? Bah, c'est lui la star du game, hein, c'est lui que vous contrôlez au cours des différents niveaux du jeu, dont le but est de récolter assez d'argent de la fraude et du patronat pour financer le programme de la France Insoumise, à savoir 279 milliards d'euros. Donc au cours des niveaux, vous devrez donc secouer et balancer des dizaines de personnalités politiques qui tenteront de vous faire la peau. Le jeu est bourré de références, notamment le dédoublement du candidat grâce à un hologramme. A noter que le jeu n'a pas été développé par l'équipe de campagne de Jean-Luc Mélenchon. L'idée est née sur le forum 1825 de jeuxvideo.com, où les soutiens envers le candidat sont nombreux. Et finalement, une douzaine de sympathisants ont collaboré à l'élaboration du jeu qui est sorti vendredi dernier et place décidément Jean-Luc Mélenchon en candidat geek de cette campagne.
Oui, c'est vrai. Il a même un manga où Jean-Luc Mélenchon fait du kung-fu et se bat contre la loi El Khomri. C'est fait par
Galef
2.
C'est un jeu sur PC ?
Un jeu en ligne, dans ton navigateur. Ouais.
Enfin bon, moi,
optimisé pour Google Chrome.
Il m'a saoulé au bout de deux secondes. Mais,
J'ai ramassé 500 000 euros, moi.
Pas mal.
Oui, pas mal. Allez, on quitte un petit peu la politique, là on en parle trop, pour aller vers la polémique avec le bad buzz de Pepsi.
Oui, une mauvaise semaine pour Pepsi qui avait pourtant sorti les gros moyens pour proposer une publicité. Elle devait être virale, mais pas dans ce sens-là. Il faut dire que ce spot, c'est 2 minutes 39 de gêne qui ont un poil irrité les internautes. Et pour cause, on y voit le mannequin Kendall Jenner quitter une séance photo pour rejoindre une manifestation pacifiste de gens en mal d'amour. Et puis elle tend une canette de Pepsi à un vilain policier qui devient tout gentil après en avoir bu une gorgée. Du coup, tout le monde est content, hein, mais non seulement c'est hyper cucu, mais en plus, cette fin a fait bondir les internautes qui ont vu une parodie d'une photo, pour le coup très sérieuse, d'une femme noire face à des policiers aux États-Unis. C'était pendant les manifestations du mouvement Black Lives Matter, après les débordements à répétition des autorités américaines envers des noirs américains ces dernières années. Pepsi, qui tente de se refaire une image en traitant de la sorte un sujet de société aussi grave, la gorgée est passée de travers sur la toile à tel point que Pepsi a finalement retiré sa vidéo et présenté ses excuses sur son compte Twitter. Notre intention n'était pas de prendre à la légère une problématique importante, nous retirons ce contenu, a déclaré la marque avant de s'excuser auprès de Kendall Jenner pour l'avoir mis dans cette situation, car la mannequin est elle aussi depuis moquée par les internautes et son image à elle aussi s'en retrouve écorchée.
Elle n'en avait pas d'image donc.
Et puis elle a touché son cachet. Donc...
Ouais, elle s'en fout un peu.
Ouais, mais derrière les contrats, elle risque de plus en avoir beaucoup. Ouais. C'est ça qui lui pose problème.
Je m'inquiète pas pour elle.
Non, moi non plus, mais bon.
Une autre image qui est écorchée, c'est celle de United Airlines.
Oui, et je le dis en mon nom propre, hein, j'engage pas Spam Pulsar, United Airlines, vous êtes une belle boîte de connards.
Ouais, United Airlines.
Voilà, merci de me soutenir dans cette. J'aurais pu le dire avec la voix de Jean Lassalle. Vous êtes une belle bande de connards.
Mais tu le tiens bien, tu le tiens bien.
Donc United Airlines, j'en ai déjà parlé il y a 2 ou 3 semaines, alors que la compagnie avait refusé d'embarquer les trois jeunes filles sous le motif qu'elles portaient des leggings. Donc ça avait provoqué un gros tollé, mais apparemment ça n'a pas suffi à United Airlines, adepte du surbooking, qui avait besoin de récupérer des places assises pour les membres de l'équipage. Sauf que faute de volontaires, 4 personnes ont été désignées, dont un homme qui a refusé à multiples reprises de céder sa place, arguant qu'il était médecin et que des patients l'attendaient. La compagnie a donc fait appel à la police, qui a dégagé l'homme manu militari, n'hésitant pas à le faire se cogner contre un accoudoir et le traîner au sol sur tout le couloir devant des passagers complètement ahuris et choqués par la situation. Donc certains d'entre eux ont filmé la scène et l'ont partagé sur les réseaux sociaux, des vidéos devenues virales, au point que United Airlines est entré en tendance mondiale sur Twitter, notamment avec le hashtag New United Airlines Mottos, donc en français, nouvelle devise de United Airlines. Donc notamment, on vous traite comme on traite vos bagages, a-t-on pu lire, ou laissez-nous vous traîner vers votre destination, ou encore, les vols normaux ont des équipages, nous avons des videurs. Bref, vous l'avez compris, encore un gros bad buzz pour la compagnie que beaucoup d'internautes appellent aujourd'hui au boycott.
Et d'ailleurs, dans cette polémique, il y a une autre polémique.
Oui, parce que selon le média en ligne The Next Web, de nombreux tweetos ayant critiqué la compagnie aérienne au travers de leurs tweets ont vu ces derniers retirés. The Next Web a intégré à son article quelques tweets d'utilisateurs se demandant ce qui s'était passé. Et effectivement, en cherchant sur Twitter, j'ai trouvé pas mal de témoignages d'utilisateurs se plaignant de la suppression de leurs tweets. Alors, j'ai pas plus d'informations que ça pour le moment. Je sais pas qui est derrière tout ça.
Le complot.
Non, mais si c'est Twitter directement, enfin, ou si c'est la compagnie qui peut bloquer des tweets de cette manière. Donc si certains auditeurs en savent plus, hein, qu'ils n'hésitent pas à se manifester sur notre page Facebook Spam Pulsar ou sur notre compte Twitter Spam Pulsar également.
Quel placement, wow. Quel placement produit,
évidemment.
Magnifique. Et tu vas maintenant nous parler d'un défi amusant sur Twitter, qu'on passe, oui, à des choses plus légères.
Exactement, il s'appelle Carter Wilkerson et il a interpellé sur Twitter donc, la marque de fast-food Wendy's en lui demandant combien de RT pour un an de nuggets de poulet gratuit. Ce à quoi l'entreprise lui a répondu 18 millions. C'est comme si c'était fait, a conclu Carter Wilkerson, qui s'est aussitôt mis en quête de ses premiers RT avec un tweet disant « Aidez-moi s'il vous plaît, un homme a besoin de ses nuggets ». L'affaire est rapidement devenue virale et même d'autres marques se sont prises au jeu avec le hashtag Nugs for Carter, comme T-Mobile qui a regretté que le jeune homme soit chez AT&T, Microsoft, Google ou encore Amazon qui lui conseille de vivre ses rêves. Bref, d'un simple tweet, c'est devenu du grand n'importe quoi, comme souvent sur Twitter. À l'heure actuelle, Carter Wilkerson approche des 2,5 millions de retweets. À noter que le tweet le plus retweeté de l'histoire, c'est celui de la présentatrice américaine Hélène DeGeneres, avec environ 3 300 000 RT. Donc, on est encore loin des 18 millions, hein, mais l'histoire est déjà belle. Et vu la publicité pour Wendy's, Carter Wilkerson a bien mérité de prendre quelques kilos avec des nuggets gratuits. Et en parlant de quelques kilos, il y a un tweetos, Marc Pygas, je sais pas comment on dit, a compté que pour un régime quotidien à 2500 calories, il faudrait 20 277 nuggets pour couvrir une année, soit 887 nuggets, enfin RT par nugget. C'est plutôt intéressant, voilà.
Oui, enfin, c'est toi qui dis que c'est intéressant.
Non, je trouvais ça intéressant, ouais. Obtenir 887 RT pour un nugget.
D'accord.
Et puisque j'ai failli être un... Puis ensuite, j'ai failli être un peu choqué, pardon, et presque plus avoir envie de parler de ce phénomène, en fait, quand j'ai vu que Carter Wilkerson avait créé un site web sur lequel il vend un t-shirt Nugs for Carter, mais j'ai ensuite vite compris que les bénéfices seraient reversés à des familles touchées par le cancer du sein dont sa mère a été atteinte. Alors moi, je dis, vas-y mon petit.
Ah, c'est beau ça. Faut dire, Wendy's, là, ils sont achetés un super community manager parce que si vous regardez leur compte, le community manager est très agressif, très drôle. En même temps, il fait des réponses assez insolentes et c'est vraiment drôle à regarder.
Moi, je viens de retweeter. Tout de suite,
voilà.
Pour les 18 millions.
C'est beau. Je l'ai fait aussi.
Moi, je l'ai fait.
C'est une petite goutte dans l'océan.
Le compte Spam Pulsar aussi l'a fait d'ailleurs.
Allez-y tous, retweetez ce tweet.
Merci Romain.
Virgule. À quoi penses-tu ?
Pulsar, c'est bon.
Je suis plus capable de penser à rien.
Point d'exclamation.
Ah ouais ?
Allez, avant d'entamer une chronique sur la culture, on va s'écouter un bon morceau de musique classique avec un remix improbable de Get Lucky de Daft Punk en version musique classique, mélangeant les grands styles de Handel à Chopin en passant par Mozart. Internet, c'est aussi ça. C'était Get Lucky par les covers de Persiflette en version classique.
Une puissance de professionnel, je dirais.
Ça, c'est bizarre.
Il est étoile en plus.
Ça, c'était un petit morceau What the fuck.
Ouais, moi, j'ai bien aimé.
Ça, c'est sympa. Hein. Mm. Allez.
J'approuve ce message.
On va passer à ma chronique, on va parler de culture, puisqu'on est dans le thème après ce morceau classique. Donc ce week-end, moi je me baladais au bord du Clain, l'écharpe au vent et la pipe à la bouche, en compagnie de mon ami Christophe Barbier, avec qui je partage le goût pour les écharpes au vent et les analyses douteuses. Et en contemplant par-dessus le pont neuf la farandole des flots fuyant fébrilement et forgeant le futur de la rivière Poitevine, une question simple a interrompu ma méditation. Y a-t-il une culture Internet ? Oui, je me pose des questions simples quand je contemple la farandole des flots fuyant fébrilement et forgeant le futur de la rivière Poitevine. Et ce qui est intéressant dans les questions simples, c'est d'y répondre de manière compliquée. Donc cette chronique, c'est cadeau pour les lycéens qui préparent le bac philo. Prenez des notes les enfants, ça va y aller. Bref, quand on parle de la France dans la campagne actuelle, d'aucuns vantent ce pays avec sa grande culture qu'il faudrait protéger. Mais c'est quoi la culture française ? Non mais je vous pose la question très sérieusement, vous qui m'écoutez. Qu'est-ce qui définit la culture française ? Et je vous entends déjà me sortir les poncifs habituels. D'ailleurs, mes chers camarades, si je vous parle de culture française...
La baguette !
D'accord, c'est ça que tu penses, toi.
Emmanuel Macron ?
D'accord, très bien. Ok, bon, enfin, je vais pas. En fait, vous allez plutôt me sortir des poncifs habituels. C'est la littérature, c'est Hugo, c'est Rousseau, c'est la peinture, c'est la gastronomie, c'est le cinéma. Non, tu vas me dire, c'est la baguette.
La baguette.
Et j'avoue, moi, toujours avoir du mal avec ce genre de réponse. Parce que, avouons-le, ils sont pas nombreux ceux qui se sont tapés l'intégrale de l'œuvre de Victor Hugo, qui se sont endormis à la 10e page des Confessions, qui connaissent la taille réelle de la liberté guidant le peuple.
Vous et savez, encore moins le programme d'Emmanuel Macron.
Non plus. Et j'avoue, manger plus souvent des burgers que des coques au vin ou des bœufs bourguignons personnellement. Du coup, il faudrait peut-être commencer par le début et commencer par définir ce qu'est la culture.
Ah,
ambitieux là.
Tu es ambitieux là.
Oui, et peut-être un peu trop ambition. D'autant qu'il y a en vérité plusieurs définitions de la culture et vous allez voir où je vais en venir. Alors je vais prendre volontairement un raccourci. La culture, ce sont les éléments de connaissance commun entre un groupe de personnes qui leur permet de se rassembler, de se souder.
Vous les zappez là.
Non, tu vas voir, je vais retomber sur mes pattes, t'inquiète pas. En fait, l'un de ces premiers éléments de connaissance étant le langage, et le langage ce n'est pas que la parole, ce sont des codes qui permettent la compréhension. Par exemple, ça fait maintenant un certain nombre d'années que je navigue sur la toile et j'ai acquis au cours de ces années, sans forcément m'en rendre compte, un certain nombre de références, d'éléments de langage, de codes visuels ou auditifs qui me permettent d'entrer ou de pouvoir rassembler une communauté de personnes. Si je vous parle de screamer, de rickroll, de hashtag, de snap, de peanut butter jelly time, de lolcat, d'arambe, de trolling, de peer-to-peer avec Kaza ou Shareza et que vous comprenez au moins une partie de ces mots que je viens de citer, il est probable que nous ayons de nombreuses références communes et que nous pourrions aller boire un verre sans silence gênant. Ouais. J'espère.
On sera là, oui.
C'est une invitation.
Avec toi pour boire un verre.
Bien entendu. Car tous ces éléments, et bien d'autres encore, constituent à mon sens une culture. Probablement une culture primitive, certes, mais rappelons que le web n'existe que depuis les années 90.
C'est vrai.
Ce sont des codes, des formes de langage qui participent à la création d'un sentiment d'appartenance. Ces codes se cristallisent souvent à travers les mèmes, ou les mimes en anglais, ces images qu'on cite souvent, ou d'autres formats de médias, qui se reprennent et se déclinent à l'infini autour d'une blague ou d'un fait. Et vous connaissez déjà sûrement ce mot, mais je fais quand même un rapide rappel. C'est le biologiste et sosie masculin d'Emma Watson, Richard Dawkins, oui, ça aussi, c'est un mème de savoir que c'est le sosie d'Emma Watson, qui propose ce terme de mème pour la première fois en 1976 en le définissant comme un élément d'une culture prise au sens de civilisation pouvant être considéré comme transmis par des moyens non génétiques, en particulier par l'imitation. En bref, par l'imitation de blagues et d'images, on finit par créer une culture commune. Et on parlait aussi la semaine dernière de l'expérience de Reddit, où des utilisateurs du forum ont travaillé ensemble pour former un gigantesque canevas de pixels bourré de références communes, dont vous pouvez voir un exemple sur la page Facebook Spam Pulsar d'ailleurs. Si ce travail a pu se faire, c'est bien par le partage de codes communs et qui a facilité ce travail collaboratif. Et c'est peut-être le prémisse d'une nouvelle forme de civilisation que nous voyons apparaître sous nos yeux d'internautes depuis quelques années. Et c'est même un sujet d'étude. Le site mi.mi, qui recense les mèmes d'Internet, s'est attelé à observer l'évolution des créations de mèmes en 2016 et en tire la conclusion qu'ils deviennent de plus en plus politiques et de moins en moins un rituel d'initié. Ils sont de plus en plus en prise avec la réalité et s'éloignent ainsi d'une simple blague stupide. En 2016, les mèmes ont vu énormément de créations autour de Donald Trump, utilisant tantôt comme une satire, tantôt comme une arme politique de soutien aux candidats républicains. Mais pas seulement, on retrouve également dans la typologie des mèmes de 2016 beaucoup de sujets de société tels que le racisme, le mouvement gay et lesbien, bi et trans, le véganisme, les fake news, les mêmes semblent s'ancrer dans nos débats quotidiens et sont porteurs de sens. C'est encore trop tôt pour en tirer des conclusions à long terme, mais nous ne devrions pas sous-estimer la portée de ce genre de matériaux numériques, tant la puissance de l'image et du symbole prend de plus en plus le pas sur de longues démonstrations, comme ma démonstration actuellement. Et je me rends compte, alors que je délaisse Victor Hugo et le cinéma d'Audiard pour me tourner vers le streaming de Lego Batman et les audiolivres, eh bien que je suis de moins en moins issu de la culture française, mais de plus en plus issu de la culture Internet. En tout cas, d'une culture occidentale d'Internet. J'irais presque jusqu'à penser que ce genre de phénomène pourrait, à très long terme, diminuer l'idée de nation dans les esprits en dressant des ponts de culture simples, bien sûr, mais plus fédérateurs que la Constitution européenne, par exemple. Vous avez bien entendu le droit de penser que je dis des énormités, que ça mériterait quand même un peu plus d'approfondissement. Vous auriez très certainement de raison, mais je reste limité par le temps de ma chronique. Cela dit, je voudrais quand même vous poser une dernière question. Êtes-vous capable de me citer plus facilement un passage d'Hernani que de lister une dizaine de blagues sur Chuck Norris ?
Non, absolument pas.
Pas du tout.
Mais Jean Lassalle, oui.
Vas-y, vas-y, récite-moi Hernani.
Alors, mes chers compatriotes, je suis... Je ne sais plus.
Tu le fais vachement bien.
Ils font toujours ce qui est interdit.
Yes, sir.
Yes, et toi en plus.
Et un Chuck Norris fact, là, même pas ?
Non. Ah là là, tu nous prends au dépourvu, là.
Ah bah oui, je sais, mais c'était un peu le but.
Non, moi, j'ai pas.
Les gars, nul.
On a dit souvent d'aller à Chuck Norris d'aller au diable, mais le diable a dit arrêter. Non,
c'est
pas...
C'est extrêmement mauvais.
C'est extrêmement gênant.
C'est extrêmement gênant. Malaise radio.
Encore ?
Ça a même aussi. Malaise TV. Allez, on va passer au journal des séries pour s'échapper de ce moment. Tu me mets le
Merci dixième. Pour ce moment.
Merci pour ce moment.
Avec la musique gênante, ça va très bien.
Non, mais bien
Je
mais dans
parle
le temps.
Tout de suite de ce plateau, il se passe n'importe quoi.
De toute façon...
Très belle chronique derrière moi, j'ai bien aimé, c'était très intéressant. En
tout cas, merci Sébastien. Alors qu'est-ce qu'on regarde dans les séries cette semaine
Beaucoup de choses, beaucoup de nouveautés, pas mal d'annonces. On commence avec Marvel et la chaîne ABC qui lanceront le 1er septembre leur nouvelle production Inhumans. Le synopsis est tombé la semaine dernière, alors je vous le fais. La famille royale des Inhumains est divisée par un coup d'état et parvient in extremis à s'échapper à Hawaï. Ça fait un peu peur déjà. Où leur surprenante interaction avec ce monde luxuriant et l'humanité pourrait sauver leur vie et la Terre elle-même.
La vache.
Alors j'ai quand même un peu peur qu'on se retrouve avec un truc hybride entre Hawaii 5-0 et Agent of the Shield, hashtag Magnum, tout pourri quoi. Donc on verra.
Mais j'aime bien le principe de s'échapper à Hawaii.
Ouais,
putain,
c'est
y a pire.
Pourquoi quoi ? Toujours Marvel ce coup-ci, mais avec Netflix, The Defender, dont je parle souvent ici, la série que groupe Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage et Iron Fist ont trouvé une date de sortie, ce sera le 18 août. Attendez-vous à une grosse marée de marketing de folie, car il semblerait que Netflix mise énormément sur cette série.
Est-ce que ça a marché Iron Fist du coup ? Est-ce qu'on a parlé
j'ai pas fini
c'est mitigé.
Moi, la saison. Mais
c'est mitigé, moi j'ai pas encore commencé.
Je suis très mitigé dans mon avis aussi. Ouais.
La série animée Rick et Morty.
Merci enfin d'en parler.
Aura droit, on m'a supplié de le faire. Donc,
tout à fait.
Aura droit une troisième saison en fait pour le 1er avril. Le site de la chaîne Adult Swing en a profité pour diffuser pendant 24 heures le premier épisode en boucle de la saison 3. Et c'est sur Twitter que le scénariste Dan Harmon a confirmé la nouvelle saison pour cet été.
Je suis extrêmement fan de Rick et Morty.
J'ai regardé le premier épisode, c'est très drôle.
Ah, c'est extrêmement.
Il faut
drôle.
Que je m'y mette.
C'est trash, c'est drôle. Et quand même, il faut souligner que le scénariste, réalisateur de Narmon, il fait à la fois la voix de Rick et de Morty, mais en même temps, il est capable de passer en une demi-seconde de la voix de l'un à l'autre, et c'est assez incroyable. Donc une voix très grave et une voix très aiguë. Et très très fort.
Chapeau.
Je vous en parlerai, je pense. De cette
série tu peux faire une chronique. Hein.
Ouais, pour la saison 3. J'ai vu le premier épisode, moi, effectivement, que je trouve toujours aussi drôle. Mm. Je pense pour la
même général sur la saison, enfin sur toutes les saisons. Je vous expliquerai clairement. Et je ne sais pas si vous regardiez Will and Grace à l'époque, mais elle sera de retour pour une 9e saison qui comptera 12 épisodes. Ou comment X-Files, Gilmore Girls, 24 heures ou Prison Break, la folie des revivals d'Hollywood s'immisce dans les séries TV. Vous allez peut-être me dire qu'il y aura une saison de Charm. Eh ben, attendez, on me glisse dans l'oreille. Effectivement, une nouvelle saison de Charm est prévue pour la fin d'année. On est complètement foutus.
Ils ressortent Charm, du coup. Ouais.
On sent Marty.
Enfin, on regarde quoi à la TV cette semaine ? Bah, pas grand-chose. J'ai pas trouvé grand-chose d'intéressant, à part Better Call Saul aujourd'hui. Donc aujourd'hui, mardi, sur Netflix, toute la saison. Ah non, un épisode par semaine. Sinon, bah, c'est tout, quoi.
Et il n'y a pas le truc avec Rowan Atkinson ? Que t'as toujours pas regardé, Inspecteur Barnabé, je sais pas quoi, là.
C'est Maigret.
Maigret, pardon, je sais plus.
Non, ça s'est terminé. Ça s'est terminé il y a 2 semaines, je crois.
T'as toujours pas regardé.
T'as toujours pas fait de chronique.
Il est devant, enfin, il est dans ma liste, mais.
Tu te rends pas compte, notre public attend.
Bon, elle est promise pour la semaine prochaine.
Merci, Bastien.
Une puissance de professionnel, je dirais.
Ça, c'est bizarre.
Si c'est toi en plus.
Allez, partons voir le Roi Soleil.
Je vous mets la petite musique d'intro de M83, qui est le générique de la série. Alors, cette chronique devait au départ se concentrer sur le revival de Prison Break. Mais après avoir vu le premier épisode, c'est difficile de se faire un avis, mais la nouvelle saison n'a pas l'air de respirer la qualité. Sur ce constat, on fait une rotation à 360 et on va parler de Versailles, dont la saison 2 a commencé il y a quelques semaines sur Canal+.
Il y a eu un gros brainstorming d'une demi-seconde.
Exactement.
C'est à chier, on change.
Versailles, c'est donc l'histoire de Louis XIV qui, en 1667, a 28 ans. Il entreprend donc la construction de son plus grand chantier, le château de Versailles. Lieu qui était simplement un pavillon de chasse entouré de marécages.
Tout à fait.
Versailles sera aussi un moyen de garder sous son aile toute la noblesse de Paris et lui éviter de comploter dans son dos une sorte de prison dorée. La série de Canal+ raconte le quotidien du roi, de la cour et de ses conspirateurs pendant la construction du château. On est partagé entre amour et haine, guerre et paix, entre les personnages. Ces sentiments sont encore plus forts lorsqu'il s'agit de la relation entre le roi et son frère Philippe, sorte de fil rouge de la série. La situation amoureuse du roi, avec la reine et ses maîtresses, n'est pas calme non plus. Elle est également au cœur de l'intrigue et parfois lui jouera des tours. Louis XIV était aussi un fin stratège, le côté politique et militaire est aussi présent dans la série, même si ce n'est pas la force de la série.
Tu veux dire qu'il n'y a pas de grande bataille ?
Non. Enfin,
on ne tue pas de l'anglais en masse.
C'est distillé.
Ah, c'est dommage.
Bref, l'histoire de Louis XIV, tout le monde la connaît, et ce n'est pas forcément ce que l'on recherche dans cette série. Ce qui frappe dans Versailles, c'est l'esthétique, la photo. On reste bien entendu dans les schémas classiques des films ou des séries historiques, avec des tenues d'époque ou des décors somptueux. Néanmoins, on a une impression de modernité. C'est peut-être dû aux coupes des costumes, mais aussi à leurs couleurs, qui sont souvent en adéquation avec le décor et qui créent une sorte d'unité et d'harmonie. Une sorte, ça c'est mes propos, de flat design made in Versailles.
Tu cales du flat design sur Versailles. Chapeau, là, chapeau, bravo. Et
pour, là, t'es prêt pour bosser chez Allociné.
Pour appuyer mes propos, j'ai une petite anecdote donc, que j'ai chopée sur Allociné, c'est que les scénaristes expliquent que peu de gens, en revanche, savent que sans Louis XIV et Versailles, rien dans ce monde actuel n'existerait en l'état. Versailles fut en son temps, ce qu'Apple est devenu une marque internationale, le tout premier de l'histoire. Voilà. Il parle de marque pour Versailles.
T'es quand même arrivé
j'étais content
à placer
parce
Apple.
Que ça parlait d'Apple.
T'es arrivé à placer Apple dans une chronique sur Versailles. Notons
la
performance.
J'ai hâte de m'acheter la prochaine Versailles Watch.
C'est un tout peu doré. Lourd au poignet, mais ça passe quand même. C'est une révolution sur le coup.
Cet esprit est aussi renforcé par un suspense constant, comme une épée de Damoclès au-dessus du téléspectateur, qui, bien qu'il connaisse le dénouement de l'histoire, ne connaît pas forcément le chemin. Ce suspense, on le doit au showrunner de cette série, deux Britanniques, Simon Mirren, qui bossait sur Esprit Criminel, série américaine, et David Wollstonecraft, qui bossait sur MI5, une série britannique. D'ailleurs, ce ne sont pas les seuls Britanniques du show, d'ailleurs, puisque les deux acteurs principaux, le roi et Philippe, sont joués respectivement par George Balden et Alexander Vlahos.
Deux acteurs, s'appeler Martin.
J'ai toujours des problèmes avec les mots compliqués. Deux jeunes acteurs donc talentueux qui se révèlent vraiment dans la série. Vous me direz, une série Canal+, avec des Anglais, par des Anglais, qui parlent de Versailles. Et oui, en fait, la série, dès le départ, a été pensée pour l'international. D'où peut-être ce côté très aseptisé et une vision très anglo-saxonne de la France. La série a d'ailleurs été tournée en anglais, même pour les acteurs français qui sont quand même présents au casting. La saison 1 a coûté au total 27 millions d'euros et c'est la plus grosse production française en termes de série. Quelques critiques reprochent ce côté américanisé de la production qui nous montre une France qui aime la haute couture, la bonne bouffe, les partous bisexuels et la violence. Un argument qu'on peut retourner aux critiques puisque toutes les productions américaines de type HBO, Netflix ou Stars misent à fond sur ces mêmes thématiques. Versailles, c'est actuellement 2 saisons de 10 épisodes sous le format 52 minutes, disponible sur Canal+ et MyCanal. Si on devait faire une comparaison avec d'autres œuvres cinématographiques ou de séries, on pourrait la rapprocher de la série Borgia ou encore du film Marie-Antoinette de Sofia Coppola pour son côté moderne. Si vous cherchez une série historique bien ficelée et agréable à la regarder, alors je me demande encore ce que vous faites ici à nous écouter.
Oh, regardez ! Plus un. Il est des étoiles en plus.
Est-ce qu'il est gros dedans, Louis XIV?
Non. Non, il est très svelte. Mais il a 27 ans, il était encore...
Ouais, il bouffait beaucoup, hein, quand même. Je...
Non, non, il est... Mais c'est... Enfin, moi, c'est une série que j'adore.
Ouais, sympa.
Ouais.
Historiquement juste, est-ce que tu as vérifié chaque fait sur Wikipédia?
Je
te rappelle que j'ai une licence
d'histoire. Il y avait un historien qui a été embauché pour...
Pour que ce soit le plus proche possible.
Laurent
non,
Deutsch.
Il était français.
Laurent Deutsch a été embauché
pour
était
français,
la série.
Pour que ce soit le plus proche de l'histoire, c'est sûr qu'il y a des petites divergences, mais c'est assez proche. Ouais.
Bah, s'ils ont mis François Bluche, hein, pour les amis qui sont en études d'histoire actuellement, ils sauront que c'est un petit peu biaisé aussi comme vision. L'histoire est un sujet très complexe. Merci.
Je te laisse maître de tes propos.
Alors, François Bluche était un historien fan de Louis XIV, mais c'était un peu gênant dans ses bouquins, hein, quand même, parce qu'il parlait de notre roi, notre armée, ah oui, notre pays.
Royaliste.
Pour un historien, c'était pas très détaché. Enfin, bon. Merci à tous sur cette analyse historique. On passe quand même d'une émission numérique à d'histoire, c'est beau quand même.
Ouais. C'est ça, Spam.
C'est ça, Spam. C'est
c'est de la
un
science,
roller coaster à 360 degrés tout exactement. Le temps.
La science, la politique, l'amour.
Allez, votre soirée sur Pulsar se poursuit avec à 20h Technogramma, un condensé de l'actu techno et hip-hop instrumental en provenance directe des zones underground de toute la planète, suivi à 21h de Culture Dub et à 23h Audrey Petburn et son acolyte Brian Cunilingus vous accueille dans la cabine du désir. Il n'y a pas de Slamatouva après Spam de 19h à 20h, donc on reprend la diffusion normale de Pulsar et si vous voulez nous retrouver, c'est... la semaine prochaine, même heure, même endroit, ou un podcast partout sur la page Facebook Spam Pulsar.
Exactement.
Merci à tous et bonne soirée.
Bonsoir.
Salut.
Bonsoir Jean.
Vous avez mal à la tête. Des pics à glace, et vous les enlevez en un instant. Par osmose.
Pulsar, c'est bon.
Un tube d'aspirine ambulant.
Point d'exclamation.